Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le discours d'accueil de Sophie Mougard mardi matin, vous avez compris que la recherche est au cœur de l'ADN de l'école des ponts ParisTech. Et ce matin, Françoise Préteux, directrice de la recherche, est avec vous donc pour vous présenter la recherche de l'école. Dans tous ces détails. Voilà, merci Françoise d'être avec nous ce matin.
Merci infiniment François. Bien, bonjour. Donc je suis effectivement Françoise Préteux. Je suis directrice de la recherche de l'école des ponts ParisTech et j'ai bien évidemment le plaisir de vous accueillir ce matin et surtout le plaisir de vous présenter un panorama, alors non pas exhaustif, mais en piochant certains aspects des activités de recherche de l'école et activités conduites par 12 laboratoires, 425 scientifiques permanents et quelques 500 jeunes chercheurs doctorants. Donc, vous voyez qu'il y a une masse critique pour s'attaquer à relever des défis et des défis de notre société. Mais permettez-moi de commencer par un mot. C'était bienvenue à l'école des ponts ParisTech. Donc je voudrais vous féliciter. Tout d'abord, vous féliciter pour avoir choisi d'intégrer notre école. Et vous dire que je pense que vous avez une chance immense. Une chance, bien évidemment, que vous avez forcée par votre mérite, par vos talents, mais une chance dont vous devez avoir conscience par les opportunités qui s'ouvrent désormais à vous. Sachez les saisir, car pour faire bref, vous êtes en train de commencer à construire votre avenir professionnel ici même. Bon, avant de penser au futur, pensons au présent. Et parlons recherche. Nous avons actuellement à faire face à des situations inédites. La pandémie, une crise sanitaire d'ampleur mondiale, qui remettent en cause, en fait, en nous plongeant dans un monde d'incertitude, tous les modèles classiques, toutes les techniques, les pratiques, les usages qui étaient les nôtres jusqu'à présent. Il nous faut nous réinventer, il faut revisiter nos pratiques, nos méthodes. Et pour cela, très naturellement, et vous avez dû vous en apercevoir parce que les médias s'en sont fait les relais et ont même amplifié la visibilité, on se tourne vers la science et vers la recherche. Pourquoi ? Eh bien, pour être capable d'avoir une meilleure connaissance de sujets, justement, qui sont nouveaux, et pour tenter d'apporter des solutions également nouvelles. En bref, on va chercher à innover. Autrement dit, face à l'incertain, à l'inédit, pour moi, ce sont les temps de la science qui s'imposent. Et j'en veux pour exemple le fait qu'en mars dernier, le président de la République a installé un nouveau comité, le comité analyse, recherche et expertise Covid-19. C'est un comité de 12 scientifiques, chercheurs, médecins, présidé par Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine. C'est un comité indépendant et qui a pour charge, pour mission, eh bien d'apporter des expertises scientifiques rapides au gouvernement face à des questions et en émettant des recommandations. Alors, vous avez certainement davantage entendu parler du Haut Conseil de la Santé publique qui nous a accompagnés très régulièrement ces derniers temps et qui venait justement apporter un éclairage aux prises de décisions publiques, politiques, dans cette situation de crise et qui apportait son soutien en particulier au ministre de la Santé. Il ne vous a pas échappé non plus, bien sûr, que dans ces dialogues et dans ces prises de position, des opinions différentes pouvaient se faire jour et, bien sûr, amplifiées par les médias, être source de controverses. Ce que je souhaiterais que nous retenions ensemble de ces controverses, ce sont leurs enseignements. Dès lors que le couple science et rigueur était de mise, alors les propos étaient utiles et permettaient de comprendre pour prendre des décisions éclairées. En revanche, à partir du moment où l'on plaide pour une espèce d'exception à la méthode, à la rigueur, pour masquer justement une absence dans la démarche de méthode, c'est la porte ouverte à justifier à peu près de tout et de son contraire. Donc la science doit être instruite et déployée dans une démarche strictement rigoureuse. Et c'est ce que les chercheurs du CEREA, notre laboratoire qui est spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air, je reviendrai sur ces aspects-là, se sont employés à faire avec leurs collègues internationaux et en particulier européens pour étudier, analyser d'abord le suivi, puis la projection de l'évolution de cette pandémie et du comportement du virus. Les courbes que je vous présente ici sont en fait extrêmement complexes. Vous y voyez des petits traits noirs. Cela fait partie des données observées. Il y avait 18 pays qui rentraient dans l'analyse pour ce suivi, d'une part des patients et d'autre part des victimes. Donc vous avez aussi les courbes maintenant sur les patients hospitalisés en rose et sur les victimes, les courbes en vert. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que à partir d'un modèle épidémiologique qui a été pris en compte, on a calé ce modèle en fonction d'un certain nombre de paramètres, plus ou moins sophistiqués, complexes, interdépendants. Vous imaginez déjà bien les corrélations qu'il y a à gérer, de manière à ce qu'il soit ajusté aux données observées. C'est toute la première partie de la courbe que vous voyez là, et on s'aperçoit qu'il y a un bon calage de ce modèle avec une précision et une gestion des erreurs associées, donc des incertitudes, d'où un modèle probabiliste associé. Et puis, à partir de là, une fois que ce modèle est calé, on est capable de faire une projection de l'évolution et de prédire le comportement, et en particulier le fameux R0 dont on entend parler tous les jours. Alors, vous voyez que les données se sont arrêtées à début juin et que la prédiction s'est portée sur les mois suivants. La conclusion qu'on peut tirer simplement de cette courbe, qui a fait l'objet de publication, donc de review par des collèges d'experts, de façon anonyme, aveugle, eh bien, c'est que le confinement, on pouvait le confirmer, avait un effet positif sur la propagation du virus. C'est un premier point. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que cette courbe-là, ou cet ensemble de courbes, n'est pas à prendre au pied de la lettre. En effet, aujourd'hui, les simulations qui sont données sont au plus pour un R0 de 1. Vous savez très bien qu'on est à 1,4, voire 1,7. Donc on est bien au-delà de la prévision présentée ici, et surtout, le modèle épidémiologique est remis en cause, puisque la population désormais touchée n'est plus la même. Ce ne sont plus des qualifiés de jeunes seniors, mais ce sont plutôt une tranche d'âge 20-30 ans, avec des symptômes qui sont bien différents des précédents. Et donc, les chercheurs actuellement sont en train de retravailler le modèle. Ils ne cherchent pas à extrapoler ce qui existe, ils vont retravailler le modèle, l'adapter aux nouvelles données observées. Ça, je vous présentais ces courbes-là simplement pour la France. Ça a été fait, je vous le dis, dans 18 pays. Un deuxième exemple, qui est certainement encore plus original que le précédent, toujours l'équipe du CEREA, pas les mêmes chercheurs. Précédemment, ce sont des modélisateurs du mathématicien et qui ont fait énormément d'assimilation de données. Vous aurez l'occasion de découvrir de quoi ils retournent. C'est tout à fait passionnant. Là, ce sont plutôt des spécialistes du transport de particules dans l'air, donc des spécialistes de l'aérolique. Ce que vous voyez sur cette image, en fait, c'est une chambre très spéciale, puisque c'est une des chambres du service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Les chambres des grands brûlés, vous savez, sont des chambres où le système aérolique est étudié de façon à ce que le risque sanitaire par contamination de microbes soit quasi nul. Ce sont des chambres qui ont un système de ventilation, en particulier un plafond soufflant, pour lequel, d'ailleurs, le CEREA a développé le modèle de configuration qu'il devait satisfaire, de façon à ce que les écoulements des flux d'air soient de telle nature que tout ce qui pouvait être en particules en suspension soit évacué et en un temps extrêmement court, c'est-à-dire de l'ordre de la seconde, en positionnant les bouches d'aspiration correctement et en particulier derrière le lit. Donc ce que vous voyez ici, c'est le lit, là c'est un patient, là ici c'est la lampe cyélitique au-dessus du lit, et comme le plafond est soufflant, vous voyez des écoulements d'air et l'on a fait une étude de la propagation, de la diffusion des gouttelettes. Alors bien évidemment, les gouttelettes, elles ont des tailles différentes. Plus la gouttelette est grosse, plus elle se dépose rapidement, c'est très intuitif. Hein. C'est comme dans un glacier, hein. Les gros morceaux ils sont au début et puis les petites particules sont à la fin. Et plus les particules sont fines et plus elles peuvent se propager loin. Donc tout cela confirme des évidences, mais surtout, ce qui est intéressant, c'était de savoir où les gouttelettes se déposaient. Et on s'est aperçu, avec le modèle paramétrique, alors là, vraiment très sophistiqué, qui a été développé, sachant que préalablement, on disposait d'un modèle 3D de la chambre, hein, complet, bien sûr, et bien ces gouttelettes se déposent non seulement sur la lampe, non seulement sur le patient, non seulement sur le lit, mais au sol. Or, vous savez que dans ces chambres-là, pour rentrer ou pour sortir, il y a des sas qui permettent d'isoler les parties, j'allais dire, standards, où certains microbes peuvent encore circuler, de la partie où il n'y a vraiment aucun microbe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, pour les soignants, il y avait des précautions spécifiques à prendre. En termes de vêtements, ils ont des surchaussures. Il est hors de question qu'ils sortent avec leurs surchaussures puisque le sol est contaminé. Donc vous voyez des choses élémentaires qui sont là pour confirmer des comportements. Des comportements aujourd'hui qui font qu'on vous demande de porter un masque, tout simplement parce qu'il y a un vecteur aéroporté de ce virus. Ça, c'est le premier point. C'est aujourd'hui bien établi. On n'en connaît pas exactement, je n'ai pas dit qu'il était virulent à des distances données, je n'en ai pas parlé. Là encore, il faut être mesuré dans ce que l'on est capable de donner comme élément d'éclairage. Néanmoins, des études montrent effectivement qu'il y a une virulence qui existe jusqu'à une certaine distance. Bien. Et puis, il y a des gestes barrières à respecter. La distanciation, et puis des gestes sanitaires, donc de protection, Et quand on a des surchaussures, on les enlève dans le sas, on les jette, et surtout on ne les manipule pas, on se lave les mains. Donc voilà, tout ça pour vous dire que même quand on est chercheur à l'École des Ponts, on est sur des enjeux de qualité de l'air, vous voyez qu'on est tout de suite interpellé grâce à des outils scientifiques, mathématiques, de modélisation, de simulation, par des enjeux sociétaux. Autrement dit, quand on pense recherche, eh bien on est capable de faire la différence et d'apporter des éléments de réflexion aux politiques publiques, pour les décideurs, de manière à ce que les recommandations qui sont formulées soient les plus pertinentes possibles. Autrement dit, le rêve de tout ingénieur-chercheur, c'est de passer d'une idée. Et si on démontrait effectivement qu'il y a une propagation aéroportée? Ce n'est pas ce qui a été dit au début. Hein. Et comment on pourrait, à partir d'une idée, conquérir le monde? Moi, c'est un ce que de vos anciens s'étaient dit il y a un siècle. Et peut-être le savez-vous, la majorité des édifices dans le monde reposent sur cette idée de votre ancien. De qui peut-il bien s'agir? Alors, si vous faisiez le tour des noms des salles, bâtiments, espaces de l'École des Ponts, vous finiriez par tomber sur ce monsieur qui est Eugène Freycinet. Donc, je vous invite à aller un jour avoir la curiosité de pousser les portes, elles ne sont pas très loin d'ici, juste là, de la halle Freycinet. Vous y découvrirez des choses extraordinaires. Alors, je vais vous conter son histoire. C'était au siècle dernier, et Freycinet, sortant de l'école, s'est aperçu que le béton ne résiste pas à la traction. Il se brise. En revanche, ce qu'il avait compris, c'est qu'il résiste merveilleusement bien à la compression. D'où l'idée extrêmement simple, c'est de faire du béton précontraint. Alors le principe, c'est qu'en tout point, les forces de pression doivent être supérieures aux forces de traction qui seront ultérieurement exercées. Jusque-là, pas de problème. Mais pour le démontrer, il a fallu qu'il développe des équations sophistiquées, il a fait du calcul tensoriel assez élaboré, il a développé toute une théorie, alors totalement originale, hein, effectivement, pour démontrer des lois de comportement, et en particulier les lois de fluage, c'est-à-dire de comportement de déformation différée dans le temps. Donc, si je fais simple, il a été un taupin brillant, comme vous, un ingénieur plutôt curieux, un chercheur talentueux, et on aurait pu dire que l'histoire s'arrête là. Mais pas du tout, parce que l'histoire, c'est un grand continuum. Et ce qu'il a fait, pour démontrer la pertinence, au-delà de publication, de son modèle, de sa théorie innovante, eh bien, c'est qu'il a réalisé des dispositifs précisément pour fabriquer du béton précontraint. Et il a eu l'idée, alors il n'en a pas réalisé un, il en a réalisé plusieurs de différentes techniques, et il a eu l'idée de les protéger. Et en faisant cela, il s'est mis dans la peau d'un entrepreneur pour créer son entreprise, et il est devenu un manager de talent. Alors, la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. La société Freycinet, c'est 6000 personnes dans le monde. C'est le plus gros portefeuille de brevets du génie civil français. C'est des réalisations prestigieuses, le pont de Normandie, le viaduc de Millau. Bien. Alors, vous allez me dire, le béton, ça me laisse de marbre. Je peux comprendre. Alors, je vais vous raconter une autre histoire, parce que ça, vous allez me dire aussi, ouais, mais enfin, c'était le siècle dernier, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et dans l'autre histoire, d'abord, je la connais bien, donc c'est un petit peu plus proche de vous, et c'est la mienne. Alors, moi, en fait, j'étais passionnée de mathématiques. Moi, quand on me parlait topologie, quand on me parle processus stochastique, les théorèmes, ça me parle bien, tout comme à vous, d'ailleurs. Seulement, en école d'ingénieur, j'avais une passion, c'était la médecine. Et donc, ce que j'ai cherché à faire, c'était à concilier mes deux passions, faire des maths, mais au service de la médecine, donc de la santé. Et là, dans ma quête de cette harmonie, j'ai eu la chance de faire des rencontres tout à fait remarquables. J'ai en particulier rencontré le chef du service de radiologie de l'hôpital Saint-Louis, qui avait la particularité de se promener de par le monde entier avec un fantôme sous le bras. Alors ne riez pas, c'est pas un ghost, c'est un fantôme. En fait, l'hôpital Saint-Louis, le service de radiologie, avait à cette époque-là le premier scanner corps entier en France. Donc c'était un équipement tout à fait remarquable. Et cet équipement, alors de conception, réalisation, fabrication française de surcroît, je souligne parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas, eh bien cet équipement avait une spécificité, c'est qu'au fur et à mesure de son utilisation, il y avait un vieillissement du tube à rayons X, si bien que les images qui étaient produites avaient des biais. D'où l'idée, assez finalement simple, de réaliser un fantôme pour faire de la calibration, autrement dit pour recaler les images et éliminer les biais d'acquisition. Et donc, ce grand patron se promenait avec un crâne sous le bras, qui avait été bourré de matière qui symbolisait, en quelque sorte, qui reproduisait les structures molles ou dures du corps humain, dont on connaissait parfaitement les densités et qui permettait ainsi de calibrer les différents scanners à différents moments de leur utilisation vieillissement. Bien. Alors ça, c'était une bonne chose, c'était la révolution, on était capable d'avoir du numérique, on était capable de faire que l'homme devenait transparent de manière non-invasive. C'était fabuleux, sauf qu'on ne savait pas exploiter les images. Or, il fallait faire parler ces images, faire en sorte qu'on soit capable d'avoir une modélisation 4D de la motilité cardiaque, par exemple. Un cœur, c'est un objet 3D, c'est un muscle qui se contracte au cours du temps. Et puis, il y a un cycle cardiaque, donc la quatrième dimension, c'est le temps. Donc ça, c'était déjà un premier enjeu, pas facile. Il fallait être capable, par exemple, de présenter un arbre bronchique en 3D pour être capable d'évaluer une capacité pulmonaire ou des atteintes cancéreuses sur les poumons, etc., etc., de faire de l'angiographie qu'aujourd'hui, on maîtrise. Et donc, j'ai eu la chance, avec ce grand patron, de pouvoir développer plein de modèles mathématiques, de me faire super plaisir, de faire des champs de Markov en 26 connexités, de faire des équations de diffusion, tout ce que je voulais, mais au service d'un besoin pour la lecture automatique de ces images, pour une aide au diagnostic. On ne remplace pas le médecin, mais on lui apporte une aide, et on peut faire en sorte que dans 90% des cas où il n'y a rien à voir, ça puisse aller beaucoup plus vite pour lui, donc on le soulage. Et en revanche, pour les cas plus litigieux, c'est lui qui conclut avec son expertise. Bien, donc ça c'est une belle aventure, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les résultats, il faut être capable de les évaluer. On touche au corps humain, c'est exactement le même problème aujourd'hui qui se pose avec la pandémie que nous vivons. Quelle est la fiabilité, la robustesse de ce qui est proposé en termes de protocole, en termes, j'allais dire, de diagnostic fondé sur des techniques informatiques, algorithmiques, d'analyse d'image. Alors là, cette phase-là, c'est une phase nouvelle, c'est une phase complètement différente de la précédente, où il faut être, là encore, éventuellement astucieux pour être capable d'avoir soit des outils de simulation très puissants qui vous permettent de dire que vous avez des modèles, vous les simulez, vous les analysez, les évaluez, vous faites du feedback, la rétroaction, pardon, et vous voyez si les données observées et les données simulées sont en concordance, ou bien alors vous développez là encore des techniques, j'allais dire, un peu plus ubuesques, où vous prenez par exemple des moutons et vous les passez dans le scanner, vous faites l'analyse au scanner et vous vérifiez in vitro si ça correspond bien. Donc tout cela fait que, eh bien, aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de voir que ces techniques, il y a 20 ans, étaient totalement novatrices. Aujourd'hui, c'est de la routine clinique classique. Donc ça, ça fait plaisir. On a le sentiment d'avoir apporté une petite pierre à l'édifice, bien évidemment dans un enjeu où de nombreux autres acteurs sont intervenus, c'est évident. Mais pour vous montrer qu'on n'est pas seul, et donc on est dans un écosystème où on apporte une pierre. Et puis, dans le monde de la recherche, tout peut changer. J'étais complètement lancée dans le monde du médical, quand un jour, à une conférence, il y a un jeune scientifique qui est venu me trouver en me disant « C'est intéressant les modèles que vous faites avec de l'animation, donc du 4D. En fait, moi, je ne travaille pas du tout dans votre domaine. Moi, je fais des cartoons. Donc, je fais des dessins animés. Et ça me donne des idées, votre truc. Est-ce que vous ne voudriez pas venir et regarder ce qu'on pourrait faire en termes de modélisation ? Alors, vous savez que la technique des cartoons, c'est une technique qui était très manuelle, qui était effectivement sous-traitée à l'étranger et qui est extrêmement onéreuse. Donc, l'idée, c'était, au lieu de dessiner toutes les images, tous les frames, de n'avoir que des trames clés, des frames, des keyframes, et d'être capable de faire de l'interpolation entre des trames clés. Bien, je vous en passe sur les détails. C'est un monde nouveau, totalement créa, qui s'ouvrait à moi et je me suis lancée vraiment à corps perdu, de façon passionnée, dans ce nouveau monde. Donc je peux essayer de vous montrer si ça veut bien se lancer. Voilà, un petit exemple de ces animations-là, à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait faire de la très belle animation. Ce qui est intéressant, c'est que les algorithmes qui ont été développés l'ont été, bien évidemment, dans le cadre d'une normalisation, de façon à ce que le monde puisse en bénéficier de manière totalement compatible. Alors, la compatibilité, ça veut donc dire que les algorithmes, les outils, la façon de construire, par exemple, les squelettes, par exemple, de définir quels sont les points clés qui permettent de faire l'animation, sont des points qui sont normalisés. Après, c'est la question de l'habileté du créatif pour rendre eh bien, des animations plus ou moins sophistiquées. Aujourd'hui, je peux vous dire que ces algorithmes-là, qui ont été développés, eh bien, font partie de la norme MPEG-4. MPEG-4, c'est une norme que vous utilisez tous, à la limite, même sans le savoir. Alors, bien évidemment, ma petite histoire, elle n'est pas comparable à celle de Fraissinet. J'en suis complètement convaincue, on n'est pas à la même échelle, ni lui ni moi, mais je pense qu'il y a une chose qu'on partage en commun, c'est le goût d'entreprendre, la curiosité, la passion et le fait de servir. Là, je dois dire qu'il y a une société qui a été créée. Moi, je ne suis pas entrepreneur, mais j'ai réalisé le transfert pour la société et la société est toujours existante aujourd'hui. Elle s'appelle Quatraxis. Cela pour vous dire que la recherche est là pour s'attaquer à des défis. Des défis qui sont, j'allais dire, générés par des rencontres, des opportunités. Donc, soyez ouverts, soyez curieux, intéressez-vous à ce qui vous entoure et n'hésitez pas à partager, à questionner. Alors, vous allez me dire, mais quels sont les défis de la recherche à l'École des Ponts ? Si je fais très simple, sur un slogan, c'est « contribuer à réussir la transition écologique ». Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est un motto qui est bien porté, que cela a toujours été. Quand j'ai lancé ce slogan au niveau de l'école, ça n'était pas du tout dans l'air du temps. Et en particulier, notre ministère de tutelle ne s'appelait pas, à ce moment-là encore, le ministère de la transition écologique. Puis ensuite, on a développé Solidaire, etc. Mais les banderoles, les bannières que vous voyez dans le hall d'entrée du bâtiment Carnot reprennent bien ce slogan, transition écologique. C'est l'enjeu clé du XXIe siècle et c'est, j'allais dire, la marque qui va signer les compétences, expertises des ingénieurs-chercheurs de l'École des Ponts Paris Tech. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire s'intéresser à tout ce qui est désormais éco-conception. Quand je dis éco-conception, c'est au sens très large, dans des filières extrêmement différentes. Éco-conception avec l'analyse du cycle de vie, donc de l'économie circulaire. Et vous voyez que l'on passe aussi bien d'éléments extrêmement techniques, de sciences fondamentales, donc de sciences dures, jusqu'à des sciences sociales, politiques, économiques, donc ce que l'on qualifie de sciences souples, et tout ça dans une espèce de continuum et d'interaction. Autrement dit, aujourd'hui, on gère des systèmes de plus en plus complexes pour répondre aux enjeux de l'écologie et donc de l'interdisciplinarité. Et ça, ça fait partie de l'ADN de l'école, d'être capable d'aborder de manière holistique, c'est-à-dire globale, systémique, des grands enjeux de système. Alors, bien évidemment, quand on a dit ça, c'est très vaste, c'est très ambitieux, mais comme nous sommes des chercheurs, nous sommes quand même extrêmement pragmatiques. On a les pieds sur terre et donc on se définit une stratégie, et une stratégie pour s'attaquer aux verrous pour lesquels on a les forces, les compétences, les expertises. Et vous voyez que là encore, dans ce domaine, eh bien, la politique publique, la puissance publique, par la voix du président de la République, a eu bien conscience que pour faire face à ces défis, il fallait là encore se tourner vers le monde de la science et des chercheurs. Et il a installé en 2018, fin 2018, le Haut Conseil pour le climat. Il y a 12 scientifiques de disciplines différentes. Vous avez des sociologues, des climatologues, vous avez des économistes. Et parmi ces 12 personnalités, je voudrais faire une part belle à Céline Guivarche, qui est une de nos chercheurs de l'école, ingénieure des ponts, et qui fait partie effectivement de ce haut comité qui est en charge d'apporter des éléments d'analyse, d'éclairage, de recommandation pour la diminution de l'émission des gaz à effet de serre en termes d'adaptabilité ou en termes de système de réduction. Alors, en ce qui nous concerne, bien évidemment, dans ce contexte-là, il faut identifier là où on est légitime, là où on peut être des référents. Et on a identifié collectivement, et ça c'est le travail véritablement de la direction de la recherche, 4 enjeux socio-économiques. Bien sûr que pour traiter des enjeux socio-économiques, il faut avoir des compétences disciplinaires. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les problèmes qui se posent, ce sont des problèmes de système complexe. Donc on peut être d'une discipline pour avoir les fondements théoriques, mais il faut être capable de dialoguer avec d'autres disciplines. Donc on s'est intéressé aux enjeux socio-économiques. Industrie du futur. On va dire que c'est le premier que je vais vous développer ici. Alors, si je vous dis industrie du futur, vous allez peut-être me répondre tout de suite IoT, Internet of Things. Autrement dit, transition numérique. Je vous réponds, vous avez raison, mais ça, c'est l'usine 4.0. Et pour nous, à l'École des Ponts, l'industrie du futur, ça se traduit par la conjugaison, en fait, la convergence entre deux transitions, c'est la transition digitale, numérique, bien évidemment, avec le monde de l'IoT et du périphérique associé, donc des capteurs, pour faire simple, et bien évidemment, le monde de la transition écologique pour une industrie qui soit soutenable et qui soit capable d'être éco-conçue dans un cercle vertueux avec de l'économie circulaire. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples dans le domaine de l'espace, pour vous montrer qu'on vise loin au niveau de l'école. Dans le domaine de l'espace, aujourd'hui, ce qui commence à avoir pignon sur rue, c'est la fabrication additive. Et dans le monde industriel, la fabrication additive se répand partout, à des degrés divers. Alors évidemment, si vous allez chez Leroy Merlin, on va aussi vous montrer de la fabrication additive. Ce n'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Et là, l'exemple que je vous montre, c'est le plus grand moteur de fusée du monde qui a été imprimé en 3D par la société Orbex. Ça veut dire quoi ? Imprimé en une seule pièce, ça veut dire que toutes les faiblesses de soudure sont écartées. Ça veut dire que le matériau utilisé, c'est de la fibre de carbone, dont on sait que c'est un matériau léger, résistant, et on démontre de cette façon-là que l'on a un gain de 30% en légèreté, de 20% en efficacité par rapport aux concurrents des grands moteurs de fusée au monde, mais surtout que ce moteur est bien éco-conçu, puisqu'il réduit de 90% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'emploi d'hydrocarbures fossiles. Donc, un vrai gain. Et vous savez que la conquête de l'espace, c'est encore un enjeu aujourd'hui. Alors, de l'infiniment grand, enfin, toute proportion gardée, à l'infiniment petit, voici le satellite le plus léger du monde, également imprimé en 3D. Alors là, c'est une toute autre histoire. Ce sont quatre étudiants indiens qui avaient un projet de recherche qui se sont dit, on va faire le plus petit satellite possible, 64 grammes. Et ils se sont dit, là encore, on va utiliser de la fibre de carbone. Alors précédemment, c'était quand même une formulation à base de composites bien spécifique. Et ils ont réalisé cela. Et ils se sont aperçus qu'en apesanteur, leur satellite durerait 12 minutes. C'était peut-être pas assez. Alors, ils se sont remis en question et ils ont dit, on va changer de matériau. Et on va utiliser du nylon. Alors, le nylon, on sait depuis longtemps que c'est très léger, super résistant, ça résiste à l'abrasion, ça résiste à la chaleur. Donc, c'était un candidat tout à fait optimal. Oui, mais voilà, il y a une difficulté dans la mise en œuvre au moment de l'impression 3D, parce que le nylon, en fait, absorbe l'humidité. Et donc, on ne peut pas s'en servir avec les têtes d'impression. Donc l'idée de ces jeunes, l'idée innovante, ça a été de s'associer à une jeune entreprise, je crois que c'était 3D Native ou 3D Ring, et de concevoir la tête d'impression qui était capable, justement, de restituer eh bien, la rigidité nécessaire et de faire évacuer l'absorption de l'humidité au moment, justement, de l'impression même. Donc, c'est une tête d'impression spécifique pour le nylon et surtout une table chauffante qui permet de faire l'évaporation de l'eau. Donc, l'innovation, ça a été un dispositif. Vous voyez que on peut innover sur des matériaux, on peut innover sur du dispositif. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont réalisé. Leur deuxième réalisation, c'est 34 grammes. Donc c'est bien, effectivement. C'est ça. Et leurs 34 grammes, cette fois-ci, vivraient 24 heures en apesanteur. À suivre donc. Tout cela pour dire que les imprimantes 3D, les défis peuvent être de plus en plus spectaculaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vise des imprimantes 3D autonomes. Alors, par exemple, autonomes pour aller au fond des mers et pour lutter contre le changement climatique, pour aller vérifier l'état des coraux, par exemple, hein, ou pour refabriquer des barrières de corail. On peut faire des imprimantes 3D qui volent. Alors, pas tout à fait, mais vous voyez l'idée que j'essaye de pousser en étant un peu créatif. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour aller, j'allais dire, faire la maintenance des gratte-ciel et des façades de gratte-ciel. Là, c'est pas simple, hein. C'est dangereux, ça coûte très cher, c'est énergétique. Et donc, avec ces systèmes-là, autonomes, on est capable de faire de la maintenance sur ces gratte-ciel qui sont vieillissants. Vous savez que c'est un enjeu majeur, en particulier pour tous les ouvrages, bâtiments, aujourd'hui, de faire de la maintenance. Si vous êtes passionné par ce qui sort de votre tube de dentifrice le matin en termes de rhéologie de pâte et de tête quand vous appuyez sur le tube, moi je vous invite à aller dans la halle Fraissinet et puis dans la halle du bâtiment Carnot pour voir les équipements d'envergure dont dispose l'école au niveau de sa plateforme de construction numérique. Ça, ce sont des exemples de réalisation. Il y a une tête d'impression qui est une tête d'impression industrielle. Il y a des robots pour faire des robots collaboratifs et pour réaliser de l'architecture, de l'assemblage de manière automatisée. Et cela m'amène à vous dire derrière qu'aujourd'hui, l'enjeu dans la partie industrie, c'est la maintenance prédictive. McKinsey disait il y a 630 milliards de dollars économisés par les entreprises d'ici 2025, c'est-à-dire demain, si elles sont capables de mettre en place des systèmes de maintenance prédictive. À l'école, nous avons les chercheurs, je pense, référents dans ce domaine de modélisation mathématique. Il faut être capable de faire des processus stochastiques, de la recherche opérationnelle, de l'optimisation sous contrainte, bref. Nous avons été capables, avec ces chercheurs, de démontrer à des grands industriels, à des grandes entreprises, qu'on pouvait leur faire gagner de l'argent, de l'efficacité et être, j'allais dire, RSE, donc d'avoir un comportement durable. Aujourd'hui, on a des grands partenariats avec la SNCF, dont on sait qu'il faut qu'elle soit... comment a dit notre Premier ministre aujourd'hui, rénover dans ses modes de fonctionnement et dans ses processus et dans ses façons d'aborder la concurrence également. Air France également, et nous avons des partenariats de long terme, par exemple pour faire de la prédiction de panne. Alors la prédiction de panne dans les technocentres, la prédiction de panne pour Air France, ça coûte des fortunes, hein. Parce que ça immobilise. Immobiliser un avion sur un tarmac, Air France n'aime pas du tout. Les pannes, c'est des retards. Les retards, c'est d'indemnisation. Air France n'aime pas non plus. Bon, la SNCF, vous savez tous qu'il y a des pannes. On les vit tous les jours. Donc, si on pouvait un jour faire en sorte qu'ils sachent si c'est maintenant qu'il faut faire la maintenance de la rame ou s'il faut attendre le cycle pour lequel cette rame-là était initialement prévue, ça nous gagnerait effectivement en termes de compétitivité. Bref, les sujets sont vastes, ils sont complexes, mais néanmoins, quand on sait faire de la science, on est capable d'apporter véritablement au cœur de métier d'une entreprise des éléments de solution qui lui font gagner en compétitivité. J'insiste, la science peut être a priori gratuite, en fait non. On est là pour faire du soutien au développement économique des entreprises. Vous êtes des ingénieurs, vos futurs employeurs, à 90% des cas, seront des entreprises ou des institutionnels et qui ont des besoins de performance. Vous serez le cœur dans ces entreprises et pour augmenter leur performance dans un contexte de compétitivité, il faut innover. Pour innover, il faut faire de la recherche. Je finirais ce volet industrie du futur avec le plus gros projet qui a été porté l'année dernière en termes de réponse à un appel d'offres de l'État. Donc c'est le grand plan d'investissement, vous voyez tous les logos, c'était ce qu'on appelait les grands projets territoires d'innovation pour l'aménagement territorial dans un souci de développement bien sûr éco-responsable. Le projet s'appelle « Construire au futur, habiter le futur ». C'est donc un vrai projet d'aménagement. Il est porté par la région Île-de-France. Il a 120 partenaires. Ça a été le plus gros projet lauréat de cet appel. Il y a eu 24 lauréats. C'était extrêmement compétitif. L'École des Ponts est au cœur de ce projet en ayant porté deux démarches totalement originales, deux démarches de labellisation de la « Smart Construction ». Autrement dit, on va être dans le lot de construire une usine qui va construire des villes ou des maisons et les maisons du futur, précisément avec de la fabrication additive, et être capable d'avoir une mesure de l'impact, parce que jusqu'à présent, on ne parle pas souvent d'impact et on ne parle pas souvent d'évaluation, hein, ex post. Et donc ça, c'est ce que nous avons porté comme valeur sur ce qu'on appelle la valeur partagée. Quels sont les bénéfices ? Autrement dit, on est peut-être dans une démarche où l'ingénieur sort un peu de sa compétence technique pour endosser aussi une compréhension d'enjeux marketing, autrement dit « features, benefits », autrement dit les efforts et les bénéfices qui ont été apportés. Et donc là, nous avons deux grands laboratoires qui portent pour l'École des Ponts une partie de ce très très grand projet. Bien, j'aurais pu passer 2 heures, voire 3, sur l'industrie du futur, mais il y a 3 autres enjeux. Donc je vais passer au deuxième, système ville et mobilité. Bon, vous savez que, et c'est un secret pour personne, on sera de plus en plus nombreux à être urbains d'ici 2 ou 3 décennies, et donc que se déplacer dans la ville, c'est un véritable enjeu, et que la mobilité doit être, bien évidemment, bas carbone. Alors moi, je vais vous parler du Grand Paris Express. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est à notre porte. Là, vous voyez précisément le projet architectural de Jean-Marie Dutilleul, architecte ingénieur des ponts, sur la gare de Noisy-Champs. Alors, ce Grand Paris Express, c'est le plus grand projet européen actuel. C'est 200 km de métro. Alors, le métro, vous allez me dire, ah ben, il y avait déjà un ingénieur des ponts. Oui, Fulgence, bienvenue, c'est le père du métro parisien. Mais là, on est en train de repenser le métro. 200 km de lignes automatiques. C'est l'équivalent du nombre de kilomètres de lignes actuelles du métro. C'est 68 nouvelles gares. Alors, les gares, on ne les imagine plus comme les gares d'autrefois, mais on les imagine comme des centres de vie, donc des lieux de service, d'animation, des lieux sociaux. Autrement dit, il faut être capable d'aménager des services et donc de remettre le citoyen au cœur du système. Eh bien, là, nos chercheurs, le laboratoire, eh bien, sont là encore impliqués dans le projet. Et puis, comme les expérimentations se font juste à côté, vous voyez bien, et vous concevez bien, qu'il y a à la fois de la géotechnique, parce qu'on a creusé quand même assez profond, hein, et donc il faut savoir comment on creuse et comment ça tient, et puis être capable de faire un aménagement avec une acceptabilité sociétale maximale. Un deuxième exemple de très grand projet, il y a eu 2 lauréats en France. Ce projet est l'un des 2, j'allais dire le premier des 2. Voilà. Il s'appelle SAM. C'est un projet sur la sécurité, l'acceptabilité, sur la mobilité dans le cadre du véhicule autonome. Alors, si on écoute notre ministre, qui était notre ministre jusqu'à peu, Elisabeth Borne, il s'agissait effectivement de définir le cadre réglementaire et les infrastructures et les développements associés pour qu'en 2022, il y ait effectivement l'application de la loi sur la mobilité ou les mobilités pour le véhicule autonome. Donc là, il s'agit de mesurer l'impact pour les chercheurs de l'école. Là, ils ne prennent pas l'aspect technique, ils prennent la mesure d'impact environnementaux et sociétaux du développement de ces modalités de véhicules autonomes. Autrement dit, la livraison, où vous voyez un petit véhicule, alors il y a 13 sites d'expérimentation, je signale que le LVMT, notre laboratoire, est le seul laboratoire académique dans le projet, que tous les autres partenaires sont soit des grands industriels, c'est porté par l'ensemble de l'industrie, de la filière industrielle automobile, ou des représentants des territoires qui sont donc les pionniers pour installer ces nouvelles modalités de mobilité propre et autonome. Donc vous avez par exemple des voiturettes qui vous font la livraison sur le dernier kilomètre des colis et qui sont totalement autonomes. Vous marchez à côté, ça vous évite. Et donc il faut être capable d'aménager des places, des espaces, et donc de revoir la fonctionnalité de l'espace public. Sur les mobilités, je dis bien les mobilités parce qu'elles sont multimodales, la grande révolution, c'est le MaaS. MaaS, c'est Mobility as a Service, autrement dit, la mobilité comme un service. Et là, si l'on veut penser ces mobilités comme des services avec ce qu'on appelle seamless, c'est-à-dire sans rupture, avec une continuité de qualité de service, eh bien, il faut être capable de résoudre un très gros enjeu de partage de données et de rendre les acteurs qui sont à la fois publics, privés, de faire en sorte qu'ils dialoguent et qu'ils rendent leurs données compatibles les unes avec les autres. Et ça, c'est un véritable enjeu. Ça, c'est la data. Donc, ce n'est pas simple et ça demande d'autres types de compétences. La ville. Bon, je pense que l'image est éloquente. Hein. Dans les grandes villes, respirer, c'est comme fumer. Donc, il faut être capable de faire de l'analyse de la qualité de l'air. Donc, on a un laboratoire qui est hyper spécialisé sur les outils à développer, extrêmement sophistiqués, mais en open source. Donc, si vous avez de la curiosité, vous pouvez toujours aller sur leur site et essayer de vous faire la main avec ces outils pour mesurer aussi bien de la qualité de l'air extérieur et donc faire de l'analyse des particules fines, voilà, que de la qualité de l'air intérieur et dans la qualité de l'air extérieur, d'être présent de façon très officielle et très opérationnelle, même si discrète, dans des phénomènes de grandes catastrophes industrielles, pour savoir le degré de pollution et le type de retombée de particules. Ça demande une très bonne connaissance, et une très bonne connaissance aussi bien de la physique, bien évidemment, des phénomènes de transport, mais également de la chimie. Alors là, ce que je vous montre, c'est un exemple tout à fait récent. En fait, c'est un appartement témoin à Villiers-sur-Marne, à côté. Aujourd'hui, les territoires, lorsqu'ils mettent en vente des nouveaux appartements, ils veulent démontrer qu'ils ont pensé à la qualité aérolique, donc au schéma aérolique d'ensemble de l'appartement, et on regarde ce qu'on appelle le temps de lessivage. Quand on envoie des particules, on cherche à savoir en combien de temps ces particules sont évacuées pour avoir positionné les capteurs, pour avoir positionné les bouches d'aération au bon endroit et ne pas avoir des zones mortes dans des pièces où il y a une accumulation effectivement de contaminants et de polluants. Donc là encore, l'air intérieur, c'est une autre problématique, c'est une autre technique. En revanche, la discipline fondamentale de modélisation est partagée avec des aspects de qualité d'air extérieur. Et je ne résiste pas à ce dernier petit exemple, qui est un exemple que moi je qualifie de niche et qui démontre qu'il y a de la créativité quand on fait de la recherche. Et que les champs d'application sont extrêmement variés et qu'on peut toujours trouver ce qui vous parle le plus, ce qui vous correspond en termes de profil de personne. Je reviens à l'hôpital Saint-Louis au service des grands brûlés. Je vous disais tout à l'heure que la chambre que je vous ai montrée, elle est précédée d'un sas de décontamination. Les soignants s'habillent et se déshabillent dans ce sas. Ce sas a des portes, bien évidemment, qui l'isolent d'une part de la chambre et d'autre part des couloirs de circulation pour desservir les autres chambres du service, et les autres pièces, et les bureaux, et les salles de soins. Le chef de service est, à mon sens, quelqu'un qui est un visionnaire. Il s'est rendu compte qu'il passait, les soignants, lui-même, leur temps à appuyer sur les boutons pour que les portes du SAS s'ouvrent ou se ferment. Donc, quand on ouvre ou on ferme, à nouveau, il y a de l'échange entre l'air du SAS et l'air extérieur. Et il a eu l'idée de se dire, et si on supprimait les portes, on n'aurait plus de boutons, et si on faisait comme le système du plafond soufflant au-dessus du lit du patient, on ait des portes qui soient un rideau d'air. Et on rentrerait dans le rideau d'air, on serait automatiquement décontaminé. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a démontré, effectivement, le CEREA a démontré que dans ces salles-là, qui sont dans ces chambres de grands brûlés, qui sont vraiment en équipement très spécifique d'un point de vue de l'aérolique, ce n'est pas les chambres standards d'hôpital, en moins de 10 secondes, avec le plafond soufflant, on a décontaminé la pièce. C'est quand même impressionnant. 10 secondes, c'est jouable pour un soignant. On peut faire mieux, et donc le CEREA a imaginé, a conçu, eh bien, ce que pourraient être ces fameuses portes soufflantes. Donc physiquement, il n'y a plus de portes, il y a des rideaux, et on est capable de simuler l'entrée d'un soignant, de voir comment les flux d'air l'enrobent, captent les particules, et comment ensuite, entre guillemets, dépoussiéré, décontaminé, il peut aller soigner le patient. Il revient, il repasse dans le rideau d'air, et il peut ressortir. Alors, c'était une phase expérimentale, ça n'est pas installé, bien évidemment, il se passera certainement de nombreuses années. Je souhaite vraiment de tout cœur que ce projet voie le jour, véritablement, et que Saint-Louis soit le pionnier pour démontrer qu'on est capable de faire des portes soufflantes et de remplacer tous ces systèmes mécaniques et ces boutons, là encore, source de contamination involontaire, mais bien réelle. Troisième enjeu, gestion des risques, des ressources, des milieux. Donc, trois volets. Les risques. Alors, ça peut être des risques industriels. J'ai plutôt choisi de vous parler des risques naturels. Et dans le cadre du réchauffement climatique, les risques naturels, c'est ce que l'on appelle les phénomènes extrêmes. Les phénomènes extrêmes, ce sont les pluies abondantes, intenses, rapides et claires qui génèrent des crues, qui génèrent des inondations. Et il n'y a pas si longtemps, on a eu des exemples tout à fait dramatiques et frappants. Ça, c'est Paris. Nous avons un laboratoire qui est le grand spécialiste de l'analyse de ces phénomènes extrêmes. Et il ne vous a probablement pas échappé en arrivant sur le site de l'école que sur le toit du bâtiment Bienvenue, il y a un système qui est un radar, en fait, qui tourne en permanence et qui capte des données météo. Donc, c'est un radar à bande X, double polarisation. Il a une portée d'un diamètre de 100 km, donc on couvre l'Île-de-France, et on est capable, les chercheurs sont capables, d'avoir développé des modèles multi-échelles, donc c'est-à-dire à l'échelle grossière ou à l'échelle de la rue, et ça, c'est important, au niveau d'un site urbain, pour savoir quelles sont les précipitations qui vont tomber. En particulier, moi j'ai la chance d'être au même étage que ce laboratoire, on a les datas qui sont acquises en temps réel, et traitées en temps réel, visualisées, et donc si je veux aller prendre le RER, je jette un petit coup d'œil pour voir s'il y a des amoncellements qui se préparent, et si je vais être sous la pluie ou pas. C'est facile. Bon, ce n'est pas l'objet véritable, je ne vous le cache pas. Et il y a un grand industriel de l'eau qui s'appelle Veolia, pour ne pas le citer, qui travaille depuis des années avec le laboratoire HEMCO et qui a mis en place les modèles hydrométéo dynamiques qui ont été développés au laboratoire. Ils les ont mis en place dans le bassin de la Bièvre et lors des dernières inondations, il y a un an, alors que la Bièvre, c'est un bassin qui est systématiquement inondé, que les riverains ont les pieds dans l'eau, avec 1,50 m dans leur garage, eh bien, en mettant en place ce système, en faisant les aménagements nécessaires, associés, en particulier des bassins de décantation végétalisés, donc dans un souci éco-responsable, eh bien, il n'y a eu aucune inondation et on a pu démontrer de cette façon-là l'efficacité de ces modèles, de leur caractère prédictif et des mesures de prévention qui ont été mises en place. Ressources. Bon, j'allais dire l'équation, elle est simple. Il y a le facteur 4 que vous connaissez bien. Le facteur 4, c'est diviser par 4 notre émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et en parallèle, multiplié par 2, eh bien, notre production d'électricité ou d'énergie renouvelable. Autrement dit, faire du vert. Alors le défi, il est de taille, hein, parce qu'il y a encore peu. La production hydroélectrique verte, c'est-à-dire par biomasse, etc., c'est 20% pour EDF. Donc pour arriver à 70%, il va falloir travailler. Donc le grand défi, c'est d'aller exploiter les énergies marines renouvelables. C'est ce qu'on appelle l'éolien offshore. Alors l'éolien offshore, vous allez me dire, oh ben, on sait déjà faire, oui. Mais là, je vais rajouter une difficulté supplémentaire, je vais vous faire de l'éolien offshore en grande profondeur. Pourquoi ? Parce que vous allez en grande profondeur, les vents sont beaucoup plus forts, donc il y a un rendement plus important, sauf que techniquement, les flotteurs et les ancrages hein, des éoliennes eh bien, subissent des contraintes qui, elles aussi, sont beaucoup plus complexes. Donc il y a des contraintes aérostatiques, il y a des contraintes de charge hydrostatique, il y a des contraintes sur les ancrages, sur les pieux, bref. Avant de dimensionner un flotteur, une éolienne offshore, il faut être capable de simuler les efforts que ce flotteur va avoir à subir. Et donc là encore, il faut être de bons, j'allais dire hydrauliciens, pour être capable de faire les modèles mathématiques, physiques, les simulations, les évaluations, pour que ce soit ensuite implanté et qu'il y ait des réalisations de proto. Alors aujourd'hui, il y a un site expérimental qui est développé par EDF qui s'appelle Provence Grand Large, où les résultats du laboratoire LHSV sont bien évidemment mis dans la réalisation. La gestion des milieux. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans que les médias ne viennent nous rappeler que les plastiques sont partout, les déchets en mer. Alors les bouteilles vieilles de 60 ans en mer Méditerranée, les pailles dans les narines des tortues, enfin bon bref, spectaculaire. Les déchets plastiques en mer, ce serait le 7e continent. Alors nous avons un laboratoire qui, bien avant que ça ne fasse la une, et la préoccupation majeure des médias s'était lancée sur l'analyse effectivement des flux, des polluants, et avait travaillé sur les plastiques, et en particulier sur ceux qui sont invisibles, mais qui sont partout, les microplastiques. Alors, non seulement ils ont été pionniers, non seulement ils ont développé un savoir-faire tout à fait unique, mais en plus, ils sont reconnus à l'Europe, puisqu'ils ont décroché l'année dernière le premier projet européen qui s'appelle l'Hymnoplast, justement, et qui est capable de mettre en réseau de l'interdisciplinarité, aussi bien des gens de sciences dures, de modélisation, que des sociologues, que des chimistes, que des physiciens et des économistes, de manière à faire des propositions en termes de solutions et des recommandations. Vous savez qu'il y a des directives qui sont émises, et là encore, il est important de pouvoir éclairer la puissance publique dans ses décisions. Et c'est mise en place de projets de loi en particulier. Le dernier enjeu que nous avons identifié, j'allais dire que c'est un enjeu qui est naturel, et j'aurais peut-être pu le mettre en premier, mais dans la suite logique de votre formation, j'ai pensé qu'il était mieux de le mettre en exergue à la fin. Vous vous doutez bien qu'avec le passé de l'École des Ponts, construire des grands ouvrages, hein, dans le monde entier, il y a des ouvrages qui ont été réalisés par les ingénieurs des ponts. Pour réaliser un ouvrage, hein, bien sûr qu'il faut savoir faire des calculs sophistiqués, mais il faut aussi savoir faire de l'économie. parce que ça coûte très cher. Donc, j'allais dire, une des disciplines, cœur pilier de l'école des ponts, c'est l'économie. Et l'économie, aujourd'hui, ben, elle débouche sur des impacts sociétaux et des impacts d'usage. Et là encore, quand on s'inscrit dans un contexte de la transition écologique, il faut faire de l'économie verte, de la finance verte. Et donc, nous avons deux très grands laboratoires, un PJSE et le CIRED, qui sont des pionniers de ces nouveaux modèles économiques et de ces nouveaux modes d'organisation, de financement, de finances vertes, qui sont des spécialistes vraiment reconnus. D'ailleurs, un de nos chercheurs a reçu l'année dernière le premier prix, justement, du chercheur sur la finance verte. Donc, c'est pour vous dire. Et je sais que dans votre cursus, eh bien, vous ne manquerez pas de découvrir, d'ailleurs, assez prochainement, justement, ce qu'est cette finance verte. Et bien sûr, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans que les citoyens, qui sont de plus en plus actifs, qui sont désormais des parties prenantes, et on le voit avec le développement, et c'est pour ça que je vous ai mis toutes ces icônes, développement des réseaux sociaux, leur poids, leur impact dans des mesures de décision ou dans des contestations ou dans des prises de position. Donc, le citoyen, en fait, est au cœur des enjeux. Le citoyen est au cœur de la société. Quand on refait une gare, on la pense service pour le citoyen. Donc, tous ces aspects d'acceptabilité, tous ces aspects sociétaux, tous ces aspects d'inclusion, eh bien, sont bien évidemment pris en compte. Autrement dit, ce sont des impacts qui sont désormais partie prenante de tous les grands projets qui sont conduits. Et nous avons là encore de grands laboratoires, en particulier je pense au LATS, qui est un laboratoire mais typiquement interdisciplinaire, parce qu'il faut être capable de conjuguer bien sûr les sciences humaines et sociales, bien sûr de la sociologie, mais également de l'histoire, de la géographie, de l'aménagement de territoire. Et donc toutes ces disciplines viennent concourir à faire que, eh bien, un projet soit considéré dans son entièreté. Pour vous faire un petit résumé, je vous ai annoncé 12 laboratoires. Vous les avez cités, je sais bien que vous ne retiendrez pas les sigles et ce n'est pas l'objectif, mais vous aurez l'opportunité, durant votre cursus, eh bien, de rencontrer les chercheurs. D'ailleurs, toutes les diapos que je vous ai montrées, en dehors de la fusée et du satellite, il y avait des images de chercheurs. Ce sont les chercheurs de l'école. Et les images de réalisation, ce sont des réalisations de projets de l'école qui me servaient de support aux diapositives. Donc j'ai de la chance, ils sont 12, j'ai 4 enjeux socio-économiques, ça fait une merveilleuse répartition, vous sentez bien les mathématiciens derrière, 4 fois 3 ça fait 12. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est gravé dans le marbre, et que si vous lisiez les rapports d'activité au niveau du volet recherche de l'École des Ponts, vous vous apercevriez que d'une année à l'autre, eh bien, certains laboratoires ont une dominante qui est plus gestion des ressources des milieux que système ville et mobilité, alors que l'année d'avant, ils étaient en système ville et mobilité. Et ça, ça montre bien l'ADN de ces laboratoires, c'est de l'interdisciplinarité. Et donc, ils sont capables de déplacer leur centre de gravité pour justement relever des défis avec des composantes qui sont plus importantes d'un côté ou de l'autre. Et de s'associer à d'autres laboratoires qui, eux, avaient une masse critique directement sur cette thématique-là, de manière à répondre à un enjeu fortement au nom de l'école. Pour être complète dans ce paysage des laboratoires, il faut ajouter ce qui me semble être extrêmement important aujourd'hui, et qui en particulier fait la différence à l'Europe, ce sont les grandes infrastructures. Alors en France, on appelle ça les TGR, les très grandes infrastructures de recherche. On va rester modeste, et toute proportion gardée, nous n'avons pas de telles très grandes infrastructures. Nous travaillons sur de telles infrastructures, je pense à Soleil par exemple, sur le plateau de Saclay avec le CEA. Mais nous avons des infrastructures, des équipements. Moi, j'appelle ça plutôt des équipements d'envergure dans ce qui a été créé il y a quelques années à l'école et qui est le Co-Innovation Lab des ponts. Alors, qu'est-ce cette chose ? Cette chose a pour but de rassembler dans un même espace à la fois vous, étudiants, des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques, des aménageurs, des grandes entreprises, des entreprises de taille plus modeste, des start-up, pour faire en sorte qu'un projet puisse émerger, puisse être prototypé, puisse être testé à l'échelle 1. Et ce Green Innovation Lab est équipé de plateformes. Pour Industrie du Futur, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est la plateforme de construction numérique robotisée que vous pourrez découvrir et qui permet de faire ces magnifiques impressions 3D, mais pas que. Système Ville et Mobilité, c'est une infrastructure qui est purement logicielle et qui fait de la modélisation du flux de transport, en particulier en lien avec la RATP. Pour gestion des risques et des milieux, c'est la plateforme Fresnel, et dont une des composantes phares, c'est le radar. Mais si vous avez observé devant le bâtiment Bienvenue, il y a une espèce de vague, une toiture un peu élégante. Eh bien, cette vague, en fait, est instrumentée. C'est une toiture végétalisée sur laquelle eh bien, le laboratoire développe justement les modèles de toiture, de drainage, de terreaux et de plantes associées de manière à savoir comment il faut gérer cela et avec un certain nombre de grands partenaires industriels, puisque autrefois on faisait de l'étanchéité, hein, il y a un très grand industriel qui était le roi de l'étanchéité et des toitures. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il cherche, c'est à récupérer l'eau, précisément des toitures, et à faire en sorte que cette eau soit recyclée et que le drainage s'effectue dans certaines conditions. Donc il y a en particulier des équipements, bien sûr, de capteurs, mais il y a aussi des équipements de LIDAR sur le toit, on vous en parlera. Et enfin, pour le dernier enjeu, j'allais dire, c'est une plateforme d'évaluation des politiques publiques. En particulier, quand le ministère et le gouvernement sortent son budget, eh bien, pour la première fois l'année dernière, il y a eu une analyse qui a été faite du budget de la France, et c'est le laboratoire PJSE qui a été un des acteurs, en collaboration avec l'IPP, c'est-à-dire l'Institut des politiques publiques, pour faire cette évaluation et remettre des éléments de conclusion et de recommandation. Donc vous voyez que ce sont, j'allais dire, des plateformes de nature physique différentes, mais à chaque fois, on est soit au service des politiques publiques, soit au service des acteurs socio-économiques. Et pour conclure, je vais vous donner quelques chiffres, parce qu'il paraît que c'est incontournable. Donc j'ai essayé de faire court sur les chiffres. Vous avez retenu 12 laboratoires, 6 unités mixtes CNRS, un Co-Innovation Lab des Ponts, 425 scientifiques, une production en termes de publication, ça c'est la production académique, c'est l'excellence, c'est ce sur quoi nos laboratoires sont évalués par le Haut Comité pour la Recherche et l'Enseignement Supérieur, l'HCERS, dont on a eu la visite et les résultats d'excellence de la recherche de l'école l'année dernière. Et bien sûr, ce qui marque l'excellence aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans la compétitivité extrêmement sélective de l'Europe, avec ce que l'on appelle des programmes d'ERC, c'est des programmes de recherche en rupture, de recherche fondamentale, qui sont capables de mobiliser donc des chercheurs avec des idées totalement innovantes, avec une prise de risque, mais pour préparer la science de demain. Et ça s'inscrit bien évidemment à l'Europe. J'ajouterais que pour moi, la recherche dispose d'une force vive, renouvelée, stratégique, ce sont les doctorants. Donc on a environ 500 doctorants, 45% d'internationaux, c'est pour montrer l'attractivité et donc l'enrichissement que l'on peut avoir. On s'enorgueillit d'avoir 39% de doctorantes, ce qui est plutôt une très belle performance, qui est au-dessus de la moyenne des grandes écoles françaises et même des universités pour les domaines scientifiques, bien sûr, puisque c'est très variable d'un domaine et d'un champ thématique à un autre. Ce que je voudrais préciser aujourd'hui, c'est que l'École des Ponts est dans une phase de transformation, puisque à compter de cette rentrée 2020, elle a la capacité, ça a été reconnu, le décret est sorti, donc, de diplômer à nouveau un doctorat École des Ponts. Et ce doctorat, bien évidemment, il aura une coloration pont, ce n'est pas le doctorat d'une université, c'est le doctorat de l'école. Et il aura en particulier, lorsque le candidat sortira avec son titre de docteur, je rappelle quand même que c'est le seul diplôme qui est universellement reconnu dans le monde. Le titre d'ingénieur, ce n'est pas le diplôme reconnu, puisqu'il y a des hétérogénéités au niveau des ingénieurs. Au niveau du doctorat, c'est le diplôme universitaire reconnu dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Cédric Villani. Donc, ce doctorat École des Ponts aura une coloration en trois volets. Premier volet, vous êtes de futurs ingénieurs, même si vous êtes ingénieur, chercheur, docteur, vous serez en prise directe avec des politiques publiques. Vous devez donc avoir une connaissance, même partielle, bien sûr, mais une première sensibilisation aux enjeux des politiques publiques. Vous serez amené à négocier. Négocier avec les politiques publiques, ce n'est pas négocier avec son voisin. Aujourd'hui, on n'est pas hexagonal, on est international. Donc nécessairement, ce doctorat doit avoir une dimension internationale. Donc on fait tout pour lever des fonds, pour aller à l'Europe, pour gagner des projets de manière à vous financer, au cours de votre doctorat, un séjour dans un laboratoire ou une entreprise à l'international. Je pense que là, on est relativement pionnier et très avancé dans le domaine. Et on a, au niveau de la direction de la recherche et soutenu par la direction générale de l'école, une volonté affirmée pour développer cet axe-là. Et enfin, la troisième dimension, elle est inhérente aux gènes et à l'ADN de l'école, c'est le lien étroit avec les entreprises. Il n'est pas imaginable qu'un docteur de l'École des Ponts n'ait pas une culture, une proximité au cours de son cursus avec les pratiques de l'entreprise. Alors, il y a différentes modalités de thèse. Il y a des thèses où, effectivement, vous êtes déjà embauché par une entreprise, ce sont des thèses chiffres. Là, on ne va pas vous demander de faire quelque chose de supplémentaire. Mais il y a des thèses où ce n'est pas le cas, vous êtes directement dans un laboratoire et vous travaillez sur un projet de recherche fondamentale. Eh bien, on s'arrange toujours pour qu'il y ait effectivement une interface où vous voyez une finalité et un intérêt et que vous compreniez comment cela se positionne effectivement dans une chaîne de valeur au niveau d'une entreprise. Simplement pour vous dire qu'il fait bon faire sa thèse à l'École des Ponts, c'est plutôt rassurant. Vous pouviez être très heureux. Apparemment, ceux-ci ne sont pas malheureux. Ils sont sur la canopée. Donc, c'est juste dans le bâtiment. Bienvenue. Et j'insistais sur les liens au niveau de la recherche avec le monde des entreprises. On développe de la recherche en temps long dans ce que l'on appelle comme instrument des chaires de recherche. Il y en a 16 actives. Il y en a 70% qui sont en monopartenariat avec un industriel. Les autres sont en multipartenariat avec d'autres acteurs académiques, de grandes écoles en principe. Et puis, d'une façon générale, on a 150 partenariats industriels, 70% du CAC 40 ou du SBF 120. Autrement dit, vous avez un large choix pour être des acteurs et relever les défis du monde de demain. Et je vous inviterai à toujours oser, à avoir la curiosité pour jeter des ponts entre science et société et devenir des ingénieurs-chercheurs portant haut la marque de l'École des Ponts Paris Tech. Je vous remercie pour votre attention.